Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Europe Soir, 18h, 20h, Nicolas Poincaré.
Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Ambline, bonsoir à tous et bienvenue dans Europe Soir. 2 heures d'infos, de décryptage et de débat avec les éditorialistes à 18h30 et le club de la presse d'Europe 1 après 19h. Au sommaire ce soir, le retour des médaillés olympiques. Ils ont dansé toute la nuit dans l'avion qui les ramenait de Rio. Ils sont reçus en ce moment même à l'Elysée. Dans un instant, nous serons en ligne avec le roi et la reine de la boxe, Estelle Mosley et Tony Yoka, les amoureux médaillés d'or. Bonsoir Isabelle Millet.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Le grand journal du soir, tout en direct.
Les touristes étrangers fuient Paris, l'Île-de-France et la Côte d'Azur. Leur nombre a chuté de 7% depuis le début de cette année. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, accuse les hôteliers parisiens de pratiquer des prix trop élevés. On ne doit pas brader la capitale, lui répondent les intéressés qui mettent surtout en cause les craintes autour de la sécurité. La France et l'Allemagne unies pour lutter justement contre le terrorisme. Elles veulent partir en guerre contre les messageries chiffrées que les djihadistes utilisent beaucoup pour communiquer. Comment empêcher les terroristes de les utiliser? Quels sont les moyens dont on dispose aujourd'hui? On posera la question à un spécialiste. À peine sa candidature pour la primaire de droite annoncée, Nicolas Sarkozy s'est déjà installé dans son nouveau QG de campagne. Visiblement, il ne veut pas perdre de temps. Une femme portant un simple foulard mais pas de burkini affirme avoir été verbalisée sur une plage de Cannes. Elle envisage de porter plainte contre la mairie et l'État français. La Bourse de Paris a terminé ce soir en hausse de 0,72%. Le CAC 40 est à 4421 points. Préparez les bouteilles d'eau et les ventilateurs. Vous avez eu chaud aujourd'hui, et bien vous aurez encore plus chaud demain. Bonsoir Christine Peña.
Bonsoir Isabelle.
Cette fois, la canicule est officiellement déclarée.
Exactement. 14 départements sont en vigilance orange. Le département du Nord, les Ardennes, la Champagne et la région parisienne piquent de cet épisode de grosse chaleur demain jeudi jusqu'à samedi. Des températures étouffantes. Puis à partir de dimanche et surtout lundi, nous retrouverons des valeurs plus raisonnables et un air plus respirable. Cette vigilance risque fort de s'étendre sur des départements qui sont plus placés au centre de la France. 36 demain à Paris, comme à Limoges, à Albi, à Orléans, à Chartres ou encore au Mans.
Merci Christine Peña. Météo complète et caniculaire dans une demi-heure. Après 18h30, le quart d'heure des opinions, des éditos et du débat avec Natacha Polony, Nicolas Bétou et François Clémenceau. Puis le journal de la présidentielle américaine, l'actualité des médias et le zapping d'Europe 1. Après 19h, le club de la presse. Deux invités ce soir, l'organisateur des primaires de gauche, Christophe Borgel, et puis le patron des jeunes agriculteurs, Samuel Vandal. Les athlètes français de retour de Rio ont dansé la samba au-dessus de l'Atlantique.
Un avion d'Air France transformé en discothèque. Écoutez Teddy Riner, l'un des DJ de la nuit.
On a commencé à faire la fête dans l'avion, c'est pour ça qu'on était peut-être fatigués. C'était le meilleur vol, je pense, qu'on a passé.
C'était une discothèque airplane. Non, c'était un super vol. Le fait d'être tous ensemble, c'est quelque chose juste à part, exceptionnel. Les 11h, on les a pas sentis. Je pense que tous les sportifs, on était très contents d'être tous ensemble sur ce vol.
À la Teddy Riner ce matin, donc à l'arrivée à Roissy, ambiance de folie. Les sportifs n'ont pas beaucoup dormi. Ils sont attendus d'un instant à l'autre à l'Elysée où François Hollande va les recevoir et où vous vous trouvez, Jean-Sébastien Soldaini. On l'a entendu, la nuit était riche, mais la journée aussi. Hein.
Et le sommeil a été court dans l'avion en provenance de Rio. Deux petites heures pour s'assoupir. Le reste s'était dédié à la fête. C'était samba et caipirinha à sa volonté. Vous l'avez entendu à la voix de Teddy Riner. C'était chaud à tel point que certains font à peine la différence avec Paris. La preuve avec Émilie Andéol qui attend encore les faits. Retour en France.
Tout le monde me dit que je vais réaliser quand je vais rentrer. Ben ça y est, je suis rentrée. Donc j'attends de voir dans les quelques jours si je vais vraiment réaliser ce que j'ai fait. Mais j'avoue que pour l'instant, non, je suis encore sur le petit nuage. Donc je réalise pas trop que je suis vraiment championne olympique. Et voilà quoi.
Avec les autres médaillés à Roissy, elle a eu droit à un comité d'accueil à la mesure de leur performance. Employés d'Air France, supporters, tous se sont pliés au nouveau gimmick des sportifs, le clapping, popularisé par les Islandais lors de l'Euro de foot. Ensuite, c'était repos dans un hôtel près de la Tour Eiffel. Pour les plus en vue, c'était conférence de presse à la chaîne. En attendant l'Elysée, ils y sont attendus par François Hollande et une cinquantaine de supporters massés devant la grille du palais.
Bah là, j'ai amené mon drapeau, j'ai amené ma boubouzella là. Alors quand ils vont passer, je vais mettre un coup de klaxon. C'est bien ce qu'ils ont fait quoi.
Même si les JO sont très connus, reconnus dans le monde, les athlètes eux sont souvent inconnus. Certains, on a découvert des noms, des sports aussi qui sont peu connus. Donc voilà, on va leur témoigner toute notre connaissance.
Voilà, nos athlètes doivent rester une petite heure. Après les petits fours, ça risque d'être un petit peu plus détendu. Une autre nuit à base de cocktails est prévue dans un hôtel de l'Ouest parisien.
Eh bien, merci Jean-Sébastien Soleini en direct de l'Elysée. Et comme promis, nous sommes maintenant en ligne sur Europe 1 avec le couple en or de ces JO, Estelle Mosley et Tony Yoka, le roi et la reine de la boxe française. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Merci de nous accorder cette interview juste avant votre réception à l'Elysée. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué après cette nuit de folie dans l'avion, paraît-il ?
Si, fatigué, j'ai pas encore récupéré moi pour ma part. Estelle a pu dormir un petit peu, mais je pense que c'est le même cas.
Et c'était vraiment la fête dans l'avion ?
Ouais, c'était la fête. Franchement, j'ai posté quelques vidéos sur les réseaux sociaux si vous arrivez à mettre la main dessus. J'ai jamais vu ça dans un avion.
Racontez-nous un peu.
Bah, c'était un avion boîte de nuit.
Ça dansait, ça chantait.
Alors, si on prend un petit peu de recul au moment où vous êtes reçu donc par le président de la République à l'Élysée, quelle est la leçon tirée de votre double victoire ? C'est qu'il faut croire en ses rêves, c'est qu'il faut beaucoup, beaucoup travailler.
Oui, moi, c'est ce que j'ai envie. C'est le message que j'ai voulu faire passer dès le départ. C'est le message qu'on a voulu faire passer. Croire en ses rêves et énormément travailler, puisque on n'a pas tout ça sans rien. On a travaillé de longues années pour obtenir ce titre olympique, malgré parfois les déceptions, malgré parfois les chutes. Ça nous a aidés, on s'en est servi pour être plus fort et aujourd'hui ça a payé.
Mais il ressemble à quoi votre quotidien ? Vous vous entraînez combien d'heures par jour pour en arriver là ?
On s'entraîne à peu près 4 heures par jour, quasiment tous les jours. On prend quand même une journée de repos dans la semaine. Mais voilà, c'est pas mal d'entraînement, très, très varié, assez personnalisé aussi selon les profils de chaque boxeur. On boxe, on court, on a des séances de muscu. C'est voilà comment est rythmé notre quotidien.
Alors, il y a eu beaucoup de belles images et d'émotions fortes pendant ces Jeux, mais vous êtes celle qui restera dans l'histoire. Est-ce que vous réalisez que vous rentrez en France en héros ?
Oui, en héros.
Non,
peut-être pas en héros quand même, mais...
Non, je pense que voilà, on ne sait pas encore. On voit qu'il y a eu pas mal d'engouement autour de ça, mais on ne réalise pas encore exactement l'impact que ça a eu.
Alors, quel est l'avenir pour tous les deux ? Tony, vous voulez maintenant devenir professionnel ?
Je vais me tourner plus vers ce format-là parce que j'ai fait le tour maintenant de la boxe amateur. Je suis devenu champion du monde et champion olympique.
Est-ce qu'on vous retrouvera quand même dans 4 ans à Tokyo ?
Rien n'est impossible. Maintenant, les professionnels sont admis aux Jeux olympiques. Donc voilà, c'est à voir.
Et vous, alors Estelle, vous êtes diplômée d'une école d'ingénieurs. J'ai lu que vous auriez bien envie de créer une entreprise, c'est vrai ?
Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai toujours eu ce souhait de créer ma propre société. Je suis ingénieure informaticienne, donc je vais prendre un peu de repos, réfléchir à tout ça. On a pas mal de propositions chez les féminines qui apparaissent. Peut-être aussi la professionnalisation de la boxe amateur chez les femmes. Donc on verra comment tout ça s'organise.
Et alors, il y a un autre projet dont tout le monde a beaucoup parlé. C'est un projet de mariage, non ?
Bien sûr. Projet de mariage à la fin de l'année.
Mois de décembre.
Et alors, si vous faites des petits, ça va être la terreur des cours de récré, non ?
On leur met une petite pression d'entrée, forcément. Mais bon.
Estelle et Tony, au-delà de votre belle aventure personnelle, la boxe a apporté 6 médailles à la France. On entendait ce matin sur Europe 1 un reportage avec des jeunes qui vous ont regardé, qui du coup ont envie de se mettre à la boxe. Qu'est-ce que vous avez envie, vous, de leur dire à ces jeunes ?
C'est super, parce que la boxe, c'est, on le voit souvent comme un sport individuel, mais on souffre beaucoup en équipe. On passe plus de 200 jours par an ensemble. On a vraiment montré qu'on était très solidaires, qu'on était la team solide. Et c'est cette fraternité, cette solidarité qui nous a permis d'aller toujours chercher plus loin à l'entraînement et de ramener pas mal de médailles. Pour les jeunes, s'ils veulent en tout cas faire de la boxe, sachez que c'est vraiment un sport rempli de valeurs. Et en plus, ça permet de faire une activité physique.
On souffre, mais ça vaut le coup. Et bien, merci Estelle Mosley, Tony Yoka. Merci à Julien Pierce et Jonathan Griveaux qui ont permis la réalisation de cette interview. Et puis, on vous laisse avec François Hollande maintenant.
Merci à vous.
Voilà, et puis notez par ailleurs que le tribunal arbitral du sport a confirmé ce matin l'exclusion des sportifs paralympiques russes suspendus à cause du scandale du dopage d'État dans leur pays. Le ministre russe des Sports dénonce une décision plus politique que juridique.
Europe 1, il est 18h08, le journal Isabelle Millet, Nicolas Poincaré.
Paris déserté par les touristes, les professionnels sont très inquiets. La capitale n'avait pas connu une telle baisse de fréquentation depuis des années.
Paris, mais aussi toute l'Île-de-France, le secteur du tourisme en région parisienne a chuté, tout comme sur la Côte d'Azur, une baisse de fréquentation qui n'est pas générale, heureusement. Olivier Samain a accompagné le ministre des Affaires étrangères pour une visite des châteaux de la Loire cet après-midi. Jean-Marc Ayrault qui a donné ce chiffre, 7% de touristes étrangers en moins depuis le début de l'année.
Ce sont bien deux France qui apparaissent quand on esquisse un bilan de l'été 2016. La première, c'est celle des grandes destinations touristiques habituelles, Paris et la Côte d'Azur. À Paris, la fréquentation des touristes étrangers a plongé de 15% lors de la deuxième quinzaine de juillet et même de 17% lors du week-end du 15 août. La deuxième France, c'est celle des autres régions où l'arrivée de touristes étrangers n'a pour ainsi dire pas reculé d'une année sur l'autre. D'un côté, l'impact des attentats, des mouvements sociaux du printemps et de la grève d'Air France. De l'autre, une offre touristique plus tranquille, à l'écart des grands flux, misant sur l'art de vivre à la française. S'agissant de Paris, Jean-Marc Ayrault n'hésite pas à pointer aussi du doigt les prix élevés pratiqués par les hôteliers et leur réactivité insuffisante.
Comme l'année 2015 avait été excellente, il y a eu cette tentation de rester à des prix élevés, voire même d'augmenter les prix. Je parle de l'hôtellerie, et notamment par rapport à une clientèle internationale à pouvoir d'achat élevé. Et donc quand on sait qu'on va avoir des difficultés, notamment les attentats et l'impact psychologique qu'ils ont eu sur cette clientèle, là il faut une réactivité plus grande. Si je prends l'exemple du Sud-Est, de Nice, de Cannes, après le drame qui s'est produit, les professionnels ont réagi immédiatement, baissant leurs prix, notamment dans l'hôtellerie, et ça a permis de freiner en quelque sorte la baisse.
Ce qui est sûr, c'est que 2016 ne sera pas une année record comme l'a été 2015, avec 85 millions de touristes étrangers. Mais Jean-Marc Ayrault l'assure, l'objectif de 100 millions de touristes en 2020 est toujours d'actualité.
Olivier Samain, donc au château de Chambord avec le ministre qui met en cause les hôteliers parisiens qui pratiquent selon lui des prix trop chers. Écoutez la réaction d'Hervé Bécane, il est vice-président de l'UMI, l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie.
Je ne crois pas que c'est en baissant les prix de manière importante que l'on fera venir plus de Japonais et plus d'Américains. Le problème pour ces clientèles étrangères qui nous ont fait défaut au cours de cet été, il n'est pas là. Il est bien évidemment sur l'aspect sécuritaire et la nécessité d'engager de très fortes campagnes de promotion et de communication à travers le monde qui produisent au moins autant d'images valorisantes de la France et de ses atouts qui n'a été produit d'images négatives pendant les 6 derniers mois. C'est le seul moyen aujourd'hui qui pourrait permettre de sauver la fin d'année et puis peut-être même la saison 2017 si nous voulons rester le numéro 1 de la fréquentation touristique au monde.
Le vice-président de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie, Hervé Bécane, avec Anne-Laure Jumet d'Europe 1.
La crise du lait, une grande réunion est prévue jeudi à Paris entre les organisations de producteurs et le géant du secteur Lactalis.
Lactalis, dont le siège social à Laval en Mayenne est bloqué depuis hier soir par des manifestants qui protestent, vous le savez, contre les tarifs pratiqués par le groupe. Ce matin sur Europe 1, son porte-parole Michel Lallet s'est dit ouvert à la discussion, mais sans avancer ni chiffres sur ses marges, ni date de rencontre. C'est donc fait, ce sera jeudi à Paris.
Et on y reviendra avec Samuel Vandal, le patron du syndicat des jeunes agriculteurs, qui sera l'invité du Club de la Presse sur Europe 1 après 19h30. Avec Nicolas Sarkozy, les choses ne traînent pas. Hier, confirmation de sa candidature à la primaire des Républicains et aujourd'hui, installation dans son QG.
Rue de l'Université, à Paris, dans le 7e arrondissement, où vous vous trouvez, Pierre Herbulot.
Oui, Nicolas Sarkozy est allé visiter son bureau au deuxième étage de ce grand bâtiment à la façade de verre. Ce sont trois niveaux entiers qui sont loués pour servir de QG de campagne. Une surface de 400 mètres carrés qui déborde même dans la rue où sont rassemblés une trentaine de militants comme Martine, venue en soutien.
Pour moi, c'est le meilleur pour sauver la France aujourd'hui qui est en péril. Et on va l'encourager parce qu'il aime la France et j'aime la France. Voilà. Et c'est celui qui, pour moi, aime le plus la France et les Français.
Tout sourire, l'ancien président de la République n'aurait pas été mieux accueilli s'il était revenu de Rio, une médaille d'or autour du cou. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy a sorti les muscles. De très nombreux ténors du Parti Les Républicains ont assisté ici à une première réunion. En voici quelques-uns. Brice Hortefeux, Éric Woerth, Éric Ciotti, Luc Châtel, Georges Fenech ou encore Guillaume Pelletier, porte-parole du parti. Il rapporte les premiers mots du candidat Sarkozy.
Tout donner, s'engager à fond pour redresser notre pays. Il nous a donné d'ailleurs un mot d'ordre. Il ne nous a pas parlé des concurrents. Il ne nous a pas parlé même de François Hollande et de Manuel Valls. Il nous a parlé de la France. Et il a conclu par trois mots, la France, la France, la France. Ce sera le grand sujet de cette campagne.
Et les choses sérieuses commencent dès demain pour Nicolas Sarkozy avec la sortie de son livre et un 20h avant trois déplacements d'ici le début de la semaine prochaine.
Merci Pierre Herbulot, rue de l'Université à Paris, devant donc le nouveau QG de campagne de Nicolas Sarkozy qui est remplacé à la tête des Républicains par Laurent Wauquiez, officiellement nommé président par intérim. Une candidature de Nicolas Sarkozy à laquelle Manuel Valls réagit dans une interview à l'Express pour le Premier ministre face aux idées d'une droite dure et populiste. La gauche peut l'emporter en 2017 en proposant un projet profondément républicain et démocratique. Fin de citation.
Manuel Valls, qui est toujours dans cette interview à l'Express, dénonce la violence verbale des anciens ministres de gauche qui se sont récemment déclarés candidat à l'élection présidentielle.
Ces anciens ministres, ce sont Benoît Hamon qui s'est lancé dans la course à la primaire socialiste, Cécile Duflot qui a présenté sa candidature à celle des écologistes et Arnaud Montebourg qui s'est lui aussi dévoilé en présentant le bilan de François Hollande comme indéfendable. Pourquoi, après avoir été solidaire et participé à l'action gouvernementale, une telle violence dans les mots qui ne sert ni leur démarche ni la gauche, déplore le Premier ministre.
Sans doute une bonne nouvelle pour les PME. Le gouvernement confirme un geste fiscal pour les petites et moyennes entreprises.
Dans le cadre de son budget 2017, une baisse de 28% de l'impôt sur les sociétés. Le gouvernement qui réagit par ailleurs à un geste pour les classes moyennes, une baisse d'impôt pour les ménages sur laquelle le Premier ministre laisse encore planer le doute. Elle sera conditionnée aux perspectives de croissance.
On a appris cet après-midi la disparition d'une figure historique d'Europe 1.
Michel Cacouot, il a dirigé la régie publicitaire d'Europe 1 dans les années 90. Il était l'un des piliers des médias en France, mais avait également été président de l'aviron bayonnais rugby. Michel Cacouot est décédé d'un accident de la route dans le Pays Basque où il passait ses vacances. Il avait 70 ans et toute la radio a ce soir une pensée pour ses proches.
Europe 1, il est 18h15. La suite du journal Isabelle Millet, Nicolas Poincaré.
Visiblement, on n'en a pas fini avec les polémiques sur les femmes trop couvertes sur les plages. À Cannes, une jeune femme affirme avoir été verbalisée alors qu'elle ne portait pas de burkini, mais selon elle, un simple foulard.
On rappelle que Cannes est l'une des communes qui ont pris un arrêté anti-burkini. Frédéric Michel, quelle est sa version des faits?
Oui, hein, Isabelle Siam raconte, elle était à Cannes en vacances avec sa famille sur une plage quand des policiers municipaux lui ont demandé de quitter les lieux. Des policiers qui, face à son incompréhension, lui ont lu l'arrêté, stupéfaite, humiliée, en pleurs, alors qu'elle ne porte qu'un simple voile, le hijab. La Toulousaine décide à contre-cœur de payer les 11 euros pour rester au bord de la mer. Aujourd'hui, on nous interdit la plage, demain, la rue, s'interroge la jeune femme.
Le policier m'a demandé de mettre mon foulard que j'avais sur la tête et sur le cou en bandana. Ce que j'ai refusé de faire. Donc, il m'a précisé que si je ne voulais pas quitter la plage, je serais verbalisée. Une femme voilée, simplement voilée, n'a plus le droit d'aller se promener sur la plage. Enfin, je suis révoltée parce que moi, j'ai envie qu'on puisse tous se promener sur la plage ou dans la rue comme on a envie de l'être. On est en France, dans le pays des libertés, des droits de l'homme. Et aujourd'hui, moi, on me prive d'un droit et je ne vois pas de raison. Quoi. Moi, j'ai envie que les gens se réveillent et disent que ce n'est pas acceptable en France.
Siam se dit aussi blessée par l'attitude des badauds. Quelques personnes l'ont bien soutenue, mais elle dit avoir entendu des « rentrez chez vous, ici on est catholique ». Les policiers auraient même été applaudis. Siam a écourté ses vacances. Elle a décidé de contacter le comité contre l'islamophobie en France et pense à une action en justice contre la ville de Cannes. Le maire, lui, soutient ses policiers pour la municipalité. L'arrêté n'est pas discriminatoire. Il interdit l'accès aux plages à toute personne n'ayant pas une tenue correcte ou notamment respectueuse de la laïcité et ne mentionne pas le burkini. Mais dans cette affaire, c'est pour le port du voile d'un hijab que Siam a été verbalisé.
Frédéric Michel à Cannes pour Europe 1.
7 personnes en lien avec des réseaux terroristes ont été arrêtées depuis le début du mois d'août en France.
3 d'entre elles au moins avaient des projets constitués. C'est en tout cas la formule utilisée ce matin par Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur qui a rencontré son homologue allemand à Paris pour discuter justement de la lutte anti-terrorisme. La France et l'Allemagne veulent en particulier tenter de trouver des solutions contre ces fameuses messageries chiffrées que les djihadistes utilisent beaucoup pour communiquer. Les deux pays vont présenter des mesures lors du sommet des chefs d'État de l'Union européenne. Et on en parle ce soir sur Europe 1 avec notre invité en direct. Bonsoir Nicolas Arpagian.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste en cybersécurité. Vous êtes directeur scientifique de l'Institut des hautes études de la sécurité et de la justice. Alors, ces messageries cryptées, on en a beaucoup parlé, hein, notamment de Telegram. Elles sont visiblement prisées par les terroristes. Est-ce que c'est vraiment l'un des talons d'Achille de la lutte antiterroriste aujourd'hui?
En fait, il faut garder à l'esprit que ce sont des outils d'une très grande technicité qui sont très robustes et performants dans leurs usages. Et simplement, ce sont des outils qui, avant, avec un niveau de technicité, étaient réservés à des praticiens, à des professionnels des communications. Là, il s'avère qu'ils sont maintenant dans la poche de monsieur et madame tout le monde. Et donc, effectivement, il est logique que les services de renseignement cherchent à percer ces communications. La seule chose, c'est qu'elles sont avec un niveau de protection, de chiffrement, qui les rend inaudibles pour l'essentiel des interceptions par les services de renseignement.
Mais quand vous nous dites qu'ils sont très robustes, vous voulez dire qu'ils sont très cryptés, très difficiles à décrypter?
Voilà, en fait, ils sont chiffrés. C'est-à-dire que la communication est protégée par une clé de chiffrement qui, plus elle est longue, plus il faut une puissance de calcul importante pour réussir à lire ces communications. La seule chose, c'est qu'on est face à des acteurs qui sont souvent à l'étranger, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des acteurs ni français, ni européens, et donc ne s'estiment pas concernés dans un premier temps par la législation. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une espèce de polémique, enfin de débat entre les services de renseignement qui souhaitent pouvoir accéder à ces communications, et puis les acteurs de la vie privée, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui effectivement s'inquiètent du fait de dire « Attendez, ne commençons pas à fragiliser le principe même du chiffrement, il est utile. Pourquoi ? Parce que pour l'essentiel de notre vie quotidienne, lorsque l'on se connecte pour sa banque, lorsque on a des communications, le futur dossier médical personnel, il faudra des communications chiffrées. Donc le chiffrement n'est pas mauvais par essence.
Donc la question c'est, sommes-nous prêts à renoncer à une partie de nos libertés pour plus de sécurité ?
En fait, la question surtout, c'est de savoir que à partir du moment où on commencerait à renoncer à un certain chiffrement, ça pourrait exposer au risque, notamment par rapport à des pirates qui pourraient utiliser la faiblesse des moyens de communication. Alors, pour l'instant, les pistes qui s'ouvrent, d'une part, c'est peut-être faire accéder ces entreprises. Vous avez parlé de WhatsApp, on pense à Facebook Messenger, à Skype, leur donner le statut d'opérateur télécom, c'est-à-dire avoir déjà l'obligation de coopérer avec les services judiciaires. Ça, pour l'instant, c'est pas systématique et c'est pas forcément, c'est plutôt pénalisant pour les enquêtes. Mais par contre, faire en sorte qu'ils aient les mêmes obligations qu'un opérateur télécom, étant donné que, d'ailleurs, de facto, quand on téléphone avec WhatsApp, on a les mêmes usages qu'avec un abonnement SFR, Orange ou Free.
Donc, quand Bernard Cazeneuve et son homologue allemand aujourd'hui demandent aux opérateurs de plus collaborer, il veut dire quoi exactement ?
En fait, il veut faire en sorte que lorsqu'ils sont sollicités, on demande des informations, des services de police, services de renseignement demandent des informations, déjà qu'il y ait quelqu'un pour leur répondre. Parce que pour l'instant, vous prenez Telegram par exemple est une entreprise d'origine russe, elle n'a pas de représentant en France. Ce n'est qu'assez récemment que d'ailleurs au ministère de l'Intérieur a été désigné un préfet en charge de la cybermenace qui est l'interlocuteur de Twitter, de Facebook, de YouTube, etc. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est déjà qu'elle soit dans une logique de coopération. Ensuite, viendra la question technique de communiquer des échanges sur des informations sur leurs utilisateurs. La seule chose, c'est qu'effectivement, ces entreprises se protègent en disant, écoutez, moi, je n'ai pas accès à l'information. Le chiffrement va jusqu'au téléphone de l'utilisateur. C'est chaque téléphone qui détient le message chiffré. Je n'ai pas la clé. Je ne peux pas communiquer aux autorités.
Merci beaucoup Nicolas Arpagian. Je rappelle, vous êtes spécialiste en cybersécurité et je précise pour ceux que ça intéresse que vous êtes auteur d'un Que sais-je sur la cybersécurité.
Et ça nous intéresse. C'était le 9 janvier 2015. Les frères Kouachi retranchés dans une imprimerie de Dammartin en Seine-et-Marne avant d'être abattus. Eh bien, 20 mois plus tard, aujourd'hui, l'entreprise va enfin pouvoir rouvrir.
Il faut dire que l'assaut des forces de l'ordre avait provoqué d'énormes dégâts. Le propriétaire de l'imprimerie, Michel Catalano, était l'invité de la matinale d'Europe 1. Il a expliqué combien cette réouverture était importante pour lui, une renaissance, une nouvelle vie, a-t-il dit. Sébastien Guyot, vous vous êtes rendu sur place pour Europe 1.
Et oui, pour Michel Catalano, c'était essentiel de se relever là où il est tombé. Pour effacer les souvenirs trop douloureux, tout doit être changé. La façade, désormais en marron, le portail et les arbres à l'entrée, c'est là d'ailleurs que les pelleteuses s'activent encore, à l'endroit même où les tueurs de Charlie Hebdo sont tombés.
C'est pas partie des images qui sont difficiles à faire partir, en fait. Voilà.
Chaque lieu est un souvenir de son cauchemar, comme cet escalier toujours là à l'intérieur, mais amené à disparaître. Pour le reste, tout est flambant neuf, une nouvelle mezzanine, une salle de détente. Les premières rotatives sont arrivées hier, enfin, la fin d'un marathon, selon Véronique, son épouse et associée.
On a tellement attendu ce moment depuis 18 mois que nous nous battons, que chaque fois qu'il y a quelque chose qui est fait, ça nous permet d'avoir un pas vers l'avenir, en fait.
L'imprimerie s'est aidée, renaît de ses cendres, comme son logo, un phénix. Elle grandit même, 10 salariés contre 5 auparavant. Lilian, qui s'était caché sous un évier, ne reviendra pas. Mais c'est à cet endroit que Michel Catalano a décidé de faire son bureau, un symbole de plus pour l'imprimeur afin d'écrire un nouveau chapitre de sa vie.
Sébastien Guyot à Dammartin en Goële pour Europe 1.
Christine Peña nous l'annonçait dès le début de ce journal, 14 départements sont classés ce soir en vigilance orange pour risque de canicule.
Des départements où le thermomètre va dépasser ou dépasse déjà d'ailleurs les 30 degrés. Ça concerne toute l'Île-de-France, mais aussi l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, la Marne, le Nord et Lyon. Et c'est dans le sud-ouest qu'il a fait le plus chaud cet après-midi avec 36 degrés relevés dans les Landes. Benjamin Peter, chez vous à Pau, il a fait également une chaleur étouffante, hein.
Oui, une chaleur terrible hein, qui vous tombe dessus. En plein après-midi tout à l'heure, on relevait 35 degrés ici à Pau et surtout pas un souffle de vent, ce qui augmente cette sensation de chaleur, si bien que tout le monde cherche un peu d'ombre. Les gens se réunissent autour des fontaines ou des jets d'eau, comme Valérie et ses trois enfants. Jusqu'ici, ils n'avaient pas eu trop de chance avec la météo, alors ils ne sont pas mécontents d'avoir un peu de soleil.
Là, on est content d'avoir un peu de chaleur. Après, trop, c'est trop, mais là, on est dans l'eau, donc c'est bon.
On les emmène là où il y a de l'eau, là où ils peuvent se défouler, là où il y a de l'air, et pour qu'ils s'aèrent et qu'ils se mouillent surtout dès qu'ils ont un peu chaud.
Alors d'autres passent juste les bras dans les fontaines, de quoi faire baisser la température du corps. Hélène et Bernard, eux, visitent les abords du château et malgré les chapeaux de paille, ils sont un peu accablés par la chaleur.
Je marche moins vite. Ben, mon Dieu, puis on se met à l'ombre. Ah, puis on boit, oui, le bois.
On a notre réserve là. Alors nous, on est des Normands, donc on n'est pas du tout habitués à ce type de chaleur. Et en fait, on séjourne à Lourdes, où c'est aussi un lieu où il fait très chaud. Donc on essaie de venir respirer un petit peu l'air béarnais et on va partir un petit peu vers la montagne pour avoir un petit peu plus d'air frais.
Et beaucoup pourraient les imiter demain en allant chercher des températures plus supportables en altitude, d'autant qu'avec un mercure au-delà de 21 degrés en ville, la nuit ne devrait pas permettre aux organismes de récupérer.
Eh bien merci et bon courage à tous. Benjamin Peter, sous la canicule à Pau.
Enfin, la disparition de celle qui était la muse de Marcel Pagnol. C'est pour elle qu'il a écrit et qu'il a réalisé Manon des Sources.
Jacqueline Pagnol, l'épouse de l'écrivain cinéaste qui s'est éteinte. Aujourd'hui, elle avait 95 ans. Écoutez un extrait justement du tout premier Manon des Sources, bien avant Emmanuel Béart. C'était en 1952 avec donc Jacqueline Pagnol.
Malgré ce qu'ils ont dit, nous n'avons jamais été les plus pauvres de la commune. On n'est pas pauvres quand rien ne vous manque. Quand on a mangé une poignée d'olives cassées, un bon civet de lapin, un fromage de chèvre au pebre d'ail, une assiette de confiture de figues et une bonne grappe de raisin, eh bien, on n'est pas du tout les plus pauvres de la commune. Oh non!
Oh non, Jacqueline Pagnol en 1952, dans le tout premier Manon des Sources, écrit et réalisé par son mari Marcel Pagnol.
Et c'était le journal d'Isabelle Mier qu'on retrouvera dans quelques minutes pour le rappel des titres. En attendant, dans un instant, la météo complète de Christine Peignat avec ses 14 départements en vigilance canicule. À tout de suite.
Europe Soir.